Bienvenue à cette émission de l'aérospatiale en orbite, une émission tout à fait spéciale de l'aérospatiale dans le cadre du Radioton de CKRL. C'est Jean-Pierre Gay, Anne-Marie Bouchard et Richard Sainte-Marie qui sont avec vous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Hey, écoutez, on veut vous parler, chers auditeurs, d'une exposition qui a lieu actuellement et qui fait partie des moyens de financement du Radioton. Une exposition qui regroupe une douzaine d'artistes. On aura l'occasion d'en parler avec les deux commissaires dans quelques minutes. Mais on a avec nous un des artistes qui expose. Il s'agit de Félix Flexible Blanc. Salut Félix.
Salut Jean-Pierre.
Salut Anne-Marie. Salut,
salut
Anne-Marie. Charles.
Salut, salut Félix.
Là, tu as le droit de nous dire bonjour.
Allô. Alors Félix, tu as une œuvre qui est pour le moins dérangeante et qui a soulevé plein de débats autour de...
Ah oui, ouais, vous
ouais,
trouvez?
Oui, ouais. Okay. Peux-tu nous la présenter?
Si je peux vous la présenter.
Ça s'appelle Rayon 3X.
Ouais. Ouais. Bon, OK. C'est en fait, c'est une représentation réaliste d'une femme qui se saisit la poitrine à pleine main avec une vue, finalement, une vue sur son squelette qui est rose, en réalité. Mm-hmm. Et à l'arrière, on voit un motif de couleur qui pourrait appeler le drapeau américain, mais qui est composé de d'autres couleurs. Donc, c'est un drapeau altéré.
C'est assez... on connaît ton travail ces temps-ci pour surtout le dessin. Là, on parle d'une peinture. Ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu faire de peinture.
Mais je vais en refaire.
Oui?
Je vais en refaire après en peinture. J'ai le projet, donc, de... Mon projet va s'appeler ce qui ne me plaît pas, en fait. En fait, c'est que je me propose de faire tout ce qui me tente pas de faire en art.
C'est drôle.
Ouais. C'est un peu ça. Puis donc, moi, je voulais plus faire de peinture normalement et je vais en refaire finalement parce que...
C'est un peu masochiste.
J'avais fait cette série-là, en fait, en 2003, OK? Mm-hmm. J'en ai pas refait depuis, mais je me propose de refaire l'exercice de la peinture.
Donc, tu viens confirmer ce que notre ami Clotaire disait, que les Québécois sont des masochistes, qu'on aime faire des choses qu'on n'aime pas.
Ouais, Clotaire, à part, je le connais pas personnellement, malheureusement, mais j'ai... Ben, peut-être heureusement aussi. Enfin, c'est controversé. OK. Parlez-moi de l'aspect dérangeant de ma toile.
Avant toute chose, parce qu'on est en radioton, une petite description, les dimensions, parce qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui ont déjà misé.
Oui.
Donne-nous les dimensions de l'œuvre, par exemple, parce que si on ne peut pas se rendre à l'établi.
Bon, écoute, c'est une 16 par 16 pouces. Mm-hmm. OK. Ensuite, c'est d'acrylique sur toile.
Mm-hmm.
Et puis, l'année de réalisation, 2003.
Puis, très coloré.
Oui, extrêmement coloré.
Très coloré.
Il y a du fluorescent.
C'est assez fluo. C'est assez provocateur. Il y a du rose aussi.
Il y a énormément de rose, effectivement.
Et tu as l'air surpris de certaines réactions. Ce n'est pas une réaction générale.
Hein? Si j'ai de l'air surpris?
Oui.
Oh, ben écoutez, ça ne peut pas laisser indifférent... En fait, d'habitude, ça reste derrière les portes western de la section adulte, là. Mm-hmm. Ce genre de truc-là. Mm-hmm. Et puis, je l'expose au grand jour, ça permet de voir en face les choses aussi.
Oui, parce que ça aborde la question de ces implants mammaires.
Pas vraiment.
Jean-Pierre,
c'est naturel.
Jean-Pierre a vu ça, lui.
Pour ce qui est du modèle, c'est comme ça, là.
Ah oui?
C'est une anomalie, en réalité, mais en tout cas, c'est quelque chose.
C'est très valorisé, en tout cas, du moins, ce genre de poitrine-là est très valorisé dans le cinéma américain, notamment, le cinéma commercial américain.
Oui, c'est ce qu'on croirait, oui.
Oui?
Oui, encore actuellement.
Puis il y a un côté trash aussi, parce que la figure de cette femme-là a l'air un peu érotique, porno, quelque part. Là. On a l'impression qu'elle est en train de penser à quelque chose.
Oui, on peut se dire que c'est vulgaire, en quelque sorte. Là. Mm-hmm. Mais par contre, c'est ce qui se produit réellement. Il faut vraiment s'ouvrir les yeux sur ça. Mm-hmm. Il y a des choses qui...
Mais moi, ce qui m'a saisi le plus, c'est pas le côté porno, érotique ou rien de ça. La couleur, d'abord, le rose, c'est rose pas à peu près. Et ça, c'est un choc, là. Puis le fait qu'on voit le squelette, donc le squelette, si on voit le squelette de quelqu'un, c'est qu'il est mort. Alors, c'est la mort et la vie, érotisme, et tout ça est ambigu à souhait.
Non, mais en réalité, c'est juste pour définir que ces gens-là ont des os. Finalement, on penserait pas. Derrière l'enveloppe, il y a des os. En fait, on ne voit pas ça. Ce serait, en tout cas, c'est fort intéressant de le remarquer et puis d'en prendre conscience aussi.
Ben, en tout cas, chose certaine, cette œuvre-là, elle est, il y a déjà des mises dessus.
On peut la voir sur Internet à ckrl.qc.ca. Vous allez, il y a un onglet en camp, vous allez avoir l'image en temps très petit, là, mais au moins, ça donne une idée de la chose. Ou aller à l'établi, c'est ouvert aujourd'hui.
Ça va être ouvert dès midi.
L'exposition est misée dessus.
Parce que la mise de départ, c'était 300 $. Et elle est déjà. Il y a déjà quelqu'un qui a misé pour avoir cette œuvre-là.
OK.
Donc, c'est parti. La tienne, il y a aussi d'autres œuvres qui sont sur lesquelles il y a déjà des mises de départ qui ont été consacrées, qui ont été faites.
C'est fantastique.
Oui. Ben écoute, Félix, merci d'être passé par chez nous ce matin.
Merci à vous. Et puis, bon Radio-Tron.
Merci beaucoup.
Alors, on peut voir l'œuvre de Félix Leblanc sur le site de CKRL, ckrl.qc.ca, à l'onglet Encan. Et on va la voir en petit, mais on peut cliquer, puis ça va venir plus gros. Déjà, ça va grossir un peu.
Et si vous voulez miser, c'est 640-25-75. Autrement dit, c'est 640-CKRL. N'hésitez pas, à partir de 6 heures, les lots vont se fermer progressivement, mais vous avez jusqu'à ce temps-là pour vous énerver en masse.
Oui, puis d'ici là, on peut toujours suivre les lots sur Internet, sur le site Internet de CKRL.
C'est
mis à jour. Par contre, à partir de 18 heures, c'est à la radio que
juste
ça va se passer parce qu'on ne pourra pas mettre à jour en temps réel les encans. Alors, on a avec nous maintenant les deux commissaires de cette exposition, Paul Brunet et Christian Messier. Bonjour, Christian.
Salut. Je vais passer le micro à Paul pour qu'il dise salut.
Salut.
Alors, Christian, il y a deux organismes que vous chapeautez, Pampeinture et Punctum. On pourrait peut-être dire quelques mots sur ces deux organismes-là. Parlons de Punctum d'abord, qui est une bonne nouvelle dans le paysage des arts visuels à Québec.
Ben oui, en fait, on parle pas beaucoup des arts visuels dans les médias. Ben oui, avec l'aérospatiale, évidemment, CKRL. Bon, c'est le fait, même beaucoup. Mais surtout, disons, dans la presse écrite, moi et le milieu des arts visuels, on trouvait qu'il y avait un énorme manque. Et puis, c'est pas encore... J'aimerais en faire plus encore, mais c'était dans cet objectif-là. Presque un an plus tard, qu'est-ce que c'est? Ben là, ça... Il y a beaucoup d'ambition de grossir aussi, de devenir, par exemple, de mettre beaucoup d'offres...
Il y a de la vidéo ces temps-ci, beaucoup.
Oui, depuis Noël, j'ai de la vidéo. En fait, Punctum, c'est partir d'un milieu puis d'aller vers l'extérieur, mais c'est aussi d'aller chercher à l'extérieur pour amener de l'information, pour amener de...
Des opinions aussi.
Des nouvelles références.
Des opinions, des nouvelles références. Comme là, cette semaine, l'artiste en vidéo, c'est Erwin Wurm, qui est un artiste autrichien qui est extrêmement étonnant. C'est un reportage de, je dirais peut-être, je sais pas trop, peut-être une vingtaine de minutes, peut-être plus. Donc on apprend à connaître des artistes, on apprend à connaître des nouvelles productions. Aussi ça va devenir des références, des appels de dossiers pour artistes, d'autres sites à aller voir. Donc c'est un peu ça l'objectif de Punctum, c'est vraiment de faire connaître l'art aux gens, puis d'aider aussi le milieu des arts visuels à prendre de l'expansion. Puis cette collaboration-là avec Pampeinture et CKRL, c'est aussi dans l'objectif de présenter de l'art actuel aux gens. Et puis voilà, c'est un des objectifs de Punctum.
Donc le site Punctum, c'est www.punctum.com.
Écrivez Punctum sur Google et puis on y arrive très facilement.
En fait, j'aimerais ça souligner que ce qui est bien avec Punctum aussi, c'est qu'il y a comme Punctum a un espèce de rôle de médiateur entre les revues vraiment spécialisées en art visuel qui ont de la difficulté à venir parler des expositions avec des comptes rendus parce que souvent, c'est tellement long avant qu'elles soient publiées. Elles sont publiées souvent aux trois mois. Donc, il n'y a pas cette immédiateté qu'on retrouve avec Punctum où les critiques sont publiées tout de suite. Ou avec Le Voir, par exemple, parce qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de place à consacrer aux arts visuels depuis quelques années. Donc, ça a vraiment changé beaucoup. Donc, Punctum a vraiment un rôle particulier dans ce cadre-là.
Ben, en fait, l'idée, c'est de pouvoir s'adresser autant au grand public qui ne connaissent pas vraiment l'art et aux spécialistes. C'est l'objectif. Mais là, je vais vous passer Pampeinture.
Oui, on va parler avec Pampeinture.
Pampeinture.
Salut.
Avec Paul Brunet, bon.
Oui, donc Pampeinture, c'est un organisme, c'est aussi un événement, un symposium de peinture qui se déroule tout le mois d'août puis qui finit par une exposition les premières semaines de septembre.
C'est biannuel, c'est aux deux ans.
Oui, c'est okay. Ça, c'est aux deux ans. Mm-hmm. Si je peux parler de cette année, la thématique, ça va être « Expérience de pensée ». Proposé par la commissaire Pascale Bédard. Puis je pourrais même vous donner la liste des artistes sélectionnés pour la première fois.
Mais on sait déjà qu'il me semble qu'il y a Blaise Carrier-Chouinard.
Non, pas du tout.
Une rumeur.
C'est une
rumeur.
Cette année, il va y avoir Julien Boilly, un peintre du Saguenay, Louis-Philippe Côté, un peintre de Montréal, Pierre Durette aussi de Montréal, Jean-Philippe Harvey de Québec, qui fait aussi partie de l'exposition du Radioton.
D'ailleurs, il y a une mise sur son œuvre actuellement.
Oui, aussi.
Oui.
Pascal Capiteau de Montréal, Marianne Daudonnet qui vient de Bruxelles en Belgique et Peyo et les Sillery de Québec, Félix Leblanc qu'on a entendu tantôt de Québec, Véronique Côté de Montréal, Isabelle Demers de Québec, il y a aussi une œuvre au Radioton qu'on va entendre bientôt, et Pierre-Yves Girard de Montréal et Ginny Yu d'Ottawa.
Hey, méchante cohorte, ça va se passer où?
En ce moment, le lieu est encore à définir.
OK. Mais ça va être un grand lieu pour avoir
autant de peintres. Ouais, ça va être un grand lieu, ça c'est sûr et certain.
Bon. Christian, ton œuvre s'intitule The Shags. On pourrait peut-être écouter un petit extrait.
OK. Montez le son.
On pourrait peut-être écouter un extrait de Shags. En fait, c'est un groupe punk. Hein. On est le dimanche matin. On peut faire jouer de... Non, pas punk, non.
vous ferez votre idée. Moi, je pense que c'est très unique.
Alors, on écoute un petit extrait.
There's a sports car on the road.
On the road,
I thought I knew the fella that drove.
That little sports car was slippery as an oyster.
Following it was like riding on a roller coaster.
Roller coaster.
Around the corners and over the bumps, every minute faster and faster, my heart thumped.
Si on achète le CD derrière, c'est écrit que Frank Zappa trouve que c'est meilleur que les Beatles.
Ça me surprend pas.
Il y a un petit côté Frank Zappa, effectivement.
Tant qu'à être dans un radioton,
oui.
Faire des dons, Pampeinture et Punctum ont un don de 303$ à faire à CKRL.
Formidable,
les gars. En fait, c'est pas le don des deux organismes, c'est plus le don de la générosité des gens qui ont acheté beaucoup de vin et d'alcool.
En fait, qui ont fait une contribution volontaire.
Oui.
Qui ont fait une contribution volontaire dans le cadre du vernissage et qui, donc, ça a rapporté 300$. C'est
formidable.
Bien, aussi, c'est sûr que Pampeinture et Punctum ont travaillé beaucoup à l'organisation de cette exposition-là. Donc, voilà.
Mais moi, je veux justement vous féliciter là-dessus, les deux, parce que vous faites des choses. Je sais, par exemple, un site web, je sais combien de temps il faut mettre là-dessus. Je sais que tu mets beaucoup d'heures.
Je ne sais pas combien
tu mets par semaine là-dessus, mais...
Je ne l'ai pas compté
non,
encore.
Puis Paul aussi, c'est des... Donc, ça veut dire que les artistes s'occupent de leurs propres affaires, puis c'est comme ça que ça va marcher.
Je crois qu'il y a toujours de la job pour mettre en valeur les arts visuels. À Québec, il y a vraiment un milieu très riche. Mmh. Et puis, c'est la mission de Punctum puis de Pampeinture. Il faut mettre ça en valeur.
Mmh. Et d'ailleurs, moi, je suis content que tu dises ça, que tu parles de que c'est riche, Québec. Nous, on arrive très bientôt, probablement qu'on va finir la saison, autour de 600 personnes différentes qui sont passées à l'aérospatiale.
Wow.
C'est quand même pas banal. On parle de... Et là-dedans, 85-90% à peu près, ce sont des gens de Québec. Ce qui veut dire que... Mmh. Et on ne couvre pas, nous... les galeries commerciales. Donc, on couvre exclusivement des artistes en art actuel, en art contemporain, ce qui veut dire qu'à Québec, c'est très, très, très actif comme milieu.
Il y a énormément, une grosse vie, puis il faut toujours plus la mettre en valeur. Puis, je vous incite acheter des œuvres originales, commencer par aller à cette exposition-là qu'on a organisée, mais aussi aller à Pampinture, acheter des œuvres originales. Achetez pas un laminé de Monet. Ça donne rien. Il n'y a pas la même luminosité, il n'y a pas la même énergie qu'un vrai tableau ou un vrai dessin.
Il n'y a pas la même émotion non plus.
Et on peut le dire, allez visiter les stands d'artistes parce que les expositions changent à tous les mois et à tous les mois, c'est vraiment l'occasion d'avoir des super surprises et de faire des découvertes.
Mmh. Aussi, allez.
En plus, c'est pas tellement cher. Je regarde les prix des fois, là, souvent même, puis c'est abordable. Donc, pour des gens qui veulent s'acheter une œuvre originale et non, c'est au même prix qu'un truc en Condorment Saint-Anne encadré Quétaine.
Et souvent, on mise sur des artistes qui vont un jour être plus populaires qu'ils ne sont actuellement. Donc, c'est un placement vers l'avenir. Parlant de placement vers l'avenir, on en a une qui... Isabelle Demers, bonjour.
Oui, bonjour.
Isabelle qui arrive avec une technique qui était empruntée au passé, la pyrogravure. Ça fait longtemps, moi, que j'ai pas vu quelqu'un pratiquer de la pyrogravure.
À vrai dire, la pyrogravure, c'est plus vivant que jamais. Si on tape pyrogravure sur Google, on se rend compte que c'est pas nécessairement des artistes en art visuel, mais c'est des pratiques qui sont quand même pratiquées comme la poterie ou des choses comme ça, ou la mosaïque. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est du passé, mais bien du présent.
Et tu nous présentes quoi? Donc, dans le cadre de l'exposition du Radioton, tu présentes une œuvre qui est sans titre, si je me rappelle bien.
Oui, j'aime pas beaucoup mettre des titres parce que je trouve qu'on s'accroche justement trop au titre puis qu'on cherche souvent un sens entre le titre et l'œuvre. Et c'est des fois, on s'accroche trop à ça puis on laisse passer qu'est-ce que l'œuvre veut vraiment dire. Donc, un beau sans titre, ça laisse place à l'imagination, j'ai l'impression. Parlons donc de la pyrogravure, c'est
oui,
ça?
Oui, allons-y donc, oui, oui. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai sauté, j'avais des petits lots à faire tirer. Je vais le faire tout de suite, puis on va revenir.
Pas de problème, je vais être encore ici.
On me disait dans les oreilles qu'il fallait que je fasse mes petits blitz. Parce que vous savez, dans le cadre du Radioton, on a des lots, des blitz, des prix. Vous pouvez bien sûr miser sur les encans qui vont être... qui vont se fermer dimanche ce soir. Par contre, vous pouvez dès maintenant vous procurer des choses. Par exemple, un roman de Chacal, mon frère de Gracia Couturier, que je ne connais pas, mais qui vaut 10 $. Donc, un autre roman, Manga Baroque d'Anne Legault, 8 $. On peut aussi, si vous appelez maintenant, il y a un ensemble cadeau de la Barberie. Ça, c'est un auditeur qui a gagné ça à CKRL et qui a décidé de le redonner. Probablement qu'il ne prend pas un coup. Il a décidé de le redonner à CKRL pour le Radioton. Donc, cet ensemble-là vaut 50 $. Vous payez 50 $ maintenant et vous avez tout un ensemble de la Barberie que vous pouvez vous procurer.
Oui. Vous pouvez aussi venir passer à la station, nous voir travailler, vous pouvez passer devant, nous voir dans la vitrine, mais vous pouvez entrer, vous êtes chez vous ici, c'est votre radio. Et au deuxième étage, il y a des lots qui sont là à vendre, vous pouvez choisir sur la table, donc il y a des lots qui sont disponibles pour les auditeurs, puis en même temps, venez nous saluer.
Et j'ai un dernier lot, on est en pleine série du hockey, il y a un livre qui s'appelle « La stratégie au hockey, 60 systèmes de jeu », il y a 60 systèmes de jeu, je ne sais pas combien
on va les donner aux Canadiens.
De Michael A. Smith, ouais, je pense qu'il en aurait besoin. Donc, vous faites le 640-25-75, vous pouvez vous procurer chez ces petits lots-là actuellement. Isabelle Demers, retour avec toi.
Donc, bon retour.
Bon retour. Pyrogravure, qu'est-ce que tu nous présentes?
Dans le fond, c'est un dessin de chouette, un petit hibou qui a deux têtes avec un fond. C'est plutôt une exploration un peu sur la thématique de la nuit, puis qu'est-ce qui vient émerger de la nuit, donc des créatures qui viennent sortir de cette noirceur-là. Puis c'est un peu qu'est-ce que je viens. C'est vraiment une exploration autour de cette thématique-là. Il y avait beaucoup d'animaux, des animaux nocturnes, des choses qui se passent la nuit par rapport à la fête ou vraiment tout ce qui englobe cette ambiance, surtout une question d'ambiance, là, ouais.
Oui, là, notre technicien dit ça a l'air chouette.
Ça a l'air chouette. Bon Mais jeu de mots, ça.
C'est sur quel support, puis quelle dimension?
La dimension,
À peu près.
Je pense que c'est 40 par 50 cm, mais c'est vraiment de mémoire. Là. C'est quand même assez petit.
Sur papier, sur bois?
Sur papier, ça, à la torche, ça flamberait assez vite. Donc, j'ai choisi des tilleuls. Ouais,
des tilleuls, oui.
Est-ce que tu en as fait plusieurs dans la même série ou c'est un seul?
À vrai dire, celui-là, c'est il n'y en a pas eu beaucoup de cette série-là. J'avais fait une autre qui était une scène de Rambo qui se passait aussi. C'est une poursuite de voiture dans la nuit aussi. Mais cette œuvre-là est particulière parce que c'est la première œuvre que j'ai faite avec mon nouveau pyrograveur. Donc, je suis passée d'un pyrograveur acheté au Mar de Serre à 10$ contre un vrai pyrograveur que j'ai reçu à Noël professionnel. Donc, on peut dire que c'est une œuvre marquante.
Un moment charnière.
C'est un point tournant. Oui,
ouais, un moment charnière, vraiment.
Mais habituellement, la pyrogravure, le mot le dit, on grave avec un.
Ça chauffe.
Ça chauffe.
Ça brûle.
C'est ce qui était en fond vraiment intéressant avec cette pratique-là, parce que c'est pas une couleur qui est posée sur un support, c'est plutôt une couleur qui émerge du support, donc on vient le contrôler. Ça dépend. Les bois vont faire des couleurs différentes, puis le niveau d'intensité, puis le temps qui est passé là-dessus aussi, ça va venir modifier qu'est-ce qui va sortir de la matière. Mm-hmm. Puis aussi, c'est plaisant parce qu'on peut jouer avec de l'eau pour faire des caches ou des endroits qui vont moins brûler. Puis ça fait des effets qui sont super intéressants, je trouve, qui viennent dépasser juste le fait que c'est une pyrogravure puis qui fait référence à des techniques artisanales. C'est vraiment pas à ça que je veux qu'on s'attarde quand je fais des choses comme ça.
Ben, on peut donc voir cette œuvre-là au même titre que les 11 autres, parce qu'il y en a 12 œuvres dans cette exposition-là, 12 œuvres qui sont à l'encan, 12 œuvres pour lesquelles on peut miser au 640-2575, mais on peut aller les voir à l'établi. L'établi qui est au deuxième étage, en haut des salons d'Edgar. Donc,
c'est dur à trouver, des fois, la porte est, mettons,
pas évident.
Mais c'est juste au-dessus des salons d'Edgar.
C'est le 265 Saint-Vallier-Est.
Voilà. Je peux pas vous tromper. Allez-y la voir en vrai, c'est mieux pour avoir le vrai feeling de l'œuvre. Sinon, ckrl.qc.ca, cliquez sur Encan.
Oui, et donc, Christian me fait remarquer que dès midi et demi, on peut accéder à l'établi. Le temps qu'il nous quitte, qu'il s'en aille ouvrir, débarrer la porte là-bas. Alors, on fait une pause. Il y a des gens qui vont vous parler justement de ces encans-là. Et au retour, nous aurons Carlos Sainte-Marie.
La Barberie est bien de vous présenter le Radioton de CKRL.
Après avoir investi le merveilleux monde du houblon, la Barberie investit dans la radio culturelle de Québec et vous présente ce 29e Radioton de CKRL. Jusqu'au 18 avril, le 89.1 vous propose d'investir dans sa diversité au rythme d'une programmation spéciale, de performances musicales variées et de plusieurs activités pour toute la famille. Le Radioton de CKRL, une présentation de la Barberie, l'experte en bière artisanale. Investis ta radio. Première Ovation, un tremplin pour la relève artistique de la capitale. Depuis 2008, cette mesure, implantée par la Ville de Québec, soutient les jeunes artistes pour leur permettre d'intégrer le milieu professionnel de la musique, du théâtre, de la danse, des arts littéraires, visuels et médiatiques, ainsi que celui des métiers d'art. Les différents programmes donnent aux artistes les moyens de créer, de profiter de l'encadrement d'artistes renommés et de vivre leurs premières ovations. Visitez le www.premièreovation.com et découvrez les programmes offerts.
En 2010, la Commission de la Capitale-Nationale du Québec célèbre ses 15 ans. Faisant œuvre de beauté, la Commission contribue avec passion à l'aménagement et à l'embellissement de Québec, notre capitale nationale. À 15 ans, les réalisations concrètes de la Commission sont déjà nombreuses et bien d'autres restent à venir. Visitez le ccnq.org pour en découvrir toute la portée. La Commission de la Capitale-Nationale du Québec, active, passionnée et créative depuis 15 ans. Les éditions Michel Lafon sont fiers de s'investir au Radioton 2010 de CKRL. L'une des plus importantes maisons d'édition française fête cette année ses 30 ans. 30 ans de littérature et de beaux livres avec 150 parutions par année diffusées dans toute la francophonie. Découvrez leur toute dernière publication. L'heure de l'ange, de la prolifique Anne Rice, l'auteur entre autres d'Entretien avec un vampire. La dernière chanson, de Nicholas Sparks, le tout dernier ouvrage de l'auteur des romans d'amour les plus lus dans le monde. Les collines de la chance, de Nora Roberts. Les vents mauvais, un thriller intimiste de Michael Marshall. L'essai autobiographique « Maux de tête » de la fascinante Diane Dufresne, « Tes secrets m'appartiennent » de Denis Richard et « Si j'avais su » de Roc Denis. Les éditions Michel Lafon. 30 ans de livres de qualité pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions.
Yeah! Kings of the Earth, not King Cole alongside Gang Marley.
Ou aller sur CKRL. www.cbll.qc.ca et donnez généreusement.
Eh bien, pour conserver la thématique de l'émission en cours, l'aréospatiale, voici quelques lots très tentants qui sont actuellement toujours disponibles et ce sont des œuvres d'art. On débute avec celle de Richard Boisvert qui s'intitule « Vivre à trois ». C'est une technique mixte, alors acrylique et mortier. Ça vaut au départ 200 $. En fait, ça vaut 400 $, on en demande 200. Donc, faites vos jeux, c'est le lot numéro 65. Il y a aussi une œuvre de Guillaume Clermont qui est une... En fait, c'est acrylique sur toile, ça vaut aussi 200 $. En fait, ça vaut 400 et on demande un minimum de 200. C'est vraiment une œuvre fantastique. Si vous êtes allé visiter l'exposition qui est en cours jusqu'à 5 heures aujourd'hui à l'établi, il y a aussi l'œuvre d'Isabelle Demers. On vient de l'entendre nous la décrire tout à l'heure. Une œuvre faite avec la pyrogravure, cette bonne vieille technique éprouvée. Alors, mise initiale 200 $ et ça vaut aussi 400 $. Donc, faites vite. Il s'agissait du lot numéro 68. Pour finir, l'œuvre de Caroline Jean. Alors, on demande un départ à peu près minimum de 200 $ également. Donc, tout ça est visiblement, visiblement disponible à l'établi jusqu'à 5 heures. Et vous pouvez nous appeler tout de suite au 640-2575 pour faire votre mise ou aller sur le www.ckrl.qc.ca.
Investis ta radio.
Donnez généreusement afin de garder dans le paysage radiophonique de Québec.
CKRL, 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 CKRL.
640-2575, ckrl.qc.ca.
L'épicerie européenne est fière de participer au Radioton 2010 de CKRL. Depuis maintenant 50 ans, l'épicerie européenne vous guide sur le chemin de la gastronomie internationale. Fraîcheur, qualité, harmonie des saveurs, ingrédients fins et précieux. L'épicerie européenne met à votre portée les richesses culinaires de l'Europe et des autres continents. L'épicerie européenne, des conseils de bon goût depuis 1959 au 560 rue Saint-Jean. Épicerieeuropeenne.com, 88-529-4847.
À la Maison des métiers d'art de Québec, explorez.
Bénéficiez de formations allant au-delà de vos attentes. Les techniques traditionnelles et d'avant-garde se côtoient en sculpture, textile et céramique. Enseignants de haut niveau et artistes de partout partagent leurs connaissances et expertises. Volets recherche et programmes d'aide soutiennent et inspirent les étudiants et les artisans établis ou de la relève.
La Maison des métiers d'art de Québec dynamise l'art d'ici et s'associe au Radioton 2010 de CKRL. 367 Boulevard Charest-Est, 524-7337.
La Taverne Steakhouse Le Tonneau, c'est plus qu'une institution au cœur du Nouveau-Saint-Roch. C'est une halte incontournable, élaborée par le chef Denis Ruel. Son menu alléchant, composé de délicieuses grillades cuites sur charbon de bois, vous mettra l'eau à la bouche. Vous serez conquis par son ambiance chaleureuse et ses soirées spectacles. Tous les vendredis, Gilles Siwi et sa gang vous y invitent dans leur riche univers folk et blues. À l'affiche le samedi 8 mai, hommage à Eric Clapton. La Taverne Steakhouse Le Tonneau, 732 rue Saint-Joseph-Est, 525-9337.
Pas beaucoup, mais en t'entendant.
Alors, de retour à l'aérospatiale en orbite, une émission spéciale de l'aérospatiale, ça fait du ciel pas mal, et dans le cadre du Radioton de CKRL, c'est avec un grand plaisir qu'on est ici. D'ailleurs, ça, moi, je veux souligner, CKRL, on dit souvent que c'est la radio culturelle, puis c'est dans la culture à Québec, les arts visuels sont importants, et CKRL ose mettre en onde à toutes les semaines une émission de 2 heures qui porte sur les arts visuels. C'est exceptionnel, et moi, c'est important de soutenir CKRL justement parce que CKRL prend des risques dans le domaine de la culture, ose des choses que la plupart des radios n'osent même pas faire. Donc, c'est important de soutenir cette radio-là. C'est important de faire en sorte qu'elle ait les moyens, mon Dieu, modestes, mais au moins les moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parlant d'objectifs, on a un objectif de Radioton. Parmi, parmi ceux-là, on a une œuvre de Carlos Sainte-Marie qui s'intitule « Les dents de la mer ». Et on a Carlos avec nous autres. Bonjour, Carlos.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui.
Carlos, « Les dents de la mer », c'est une nouvelle série?
Exactement. Ben, c'est une série sur laquelle je travaille présentement. Les dates d'exposition sont pas encore connues, mais cette pièce-là, pour faire une histoire courte, c'est la première pièce de la série qui est en cours de production. Donc, ça me faisait plaisir de mettre cette pièce-là pour, c'est comme pour moi une ouverture. Ça donne comme un petit coup d'envoi. Mm-hmm. Surtout qu'on parle de la mer et un bateau, tout ça.
Oui, en fait, c'est un bateau qui a l'air d'être en train d'exploser.
Non, mais c'est un baleinier, parce que, la thématique du projet Les Dents de la mer, c'est sur la vidange des fonds marins qu'on fait pour les buts, en tout cas, donc ils n'ont pas nécessairement de se nourrir, mais plutôt d'en tirer des profits. Mm-hmm. Donc c'est un peu le projet. Donc ça, c'est un baleinier avec sur les dernières séries, il y avait toujours ce qu'on trouvait dans l'antenne parabolique qui renvoie le signal, qui envoie, qui reçoit, tout ça qui me rappelle toujours les capteurs de rêve. Mm-hmm. Donc je l'ai intégré à ce au bateau.
Oui, parce que tu as toujours une thématique assez engagée dans tes œuvres.
Oui, absolument. C'est le point de départ là, du travail. Mm-hmm. Puis ça, ce travail-là, je le travaille en fonction d'un auteur là, qui est quand même mort depuis longtemps, qui est Herman Melville, mm-hmm. qui avait produit le texte Moby Dick.
Moby Dick.
Qui annonçait déjà l'acharnement à vouloir détruire la baleine, là, qui mm-hmm. était finalement qui était l'adversaire. Puis aussi avec les références de William Turner aussi, qui a fait beaucoup de marine.
Le champion des marines.
Ouais, exactement, c'est ça. Fait que ces trois éléments-là font que l'unité de la série que j'essaie de finaliser.
Le tableau que tu offres dans le camp, il est de quelle dimension?
C'est 14 pouces par 18 pouces en centimètres, je me rappelle.
C'est un assez petit tableau.
Ah oui, c'est un petit tableau.
Mais ça, c'est important, ce que Jean-Pierre le soulignait, c'est le premier d'une série. Donc, on peut dire que tout est là. C'est pour ça que Jean-Pierre est si intéressé par ce tableau-là.
Ah, absolument. C'est la première pièce. C'est une pièce 2009. Mm. Donc, ça fait déjà une année que je travaille là-dessus. Puis, les séries, on les commence en 2009. On les a pensées en 2007. Là.
C'est ça. Ouais. Puis, tu travailles toujours comme ça. Il y a quelques tableaux qui annoncent.
Moi, c'est les séries. C'est complètement. Je renouvelle là, toujours, à chaque fois. Toujours.
Donc, ça finit par une exposition.
Ouais.
Puis là, tu recommences pas les comptoirs à zéro, mais un peu dans.
Quasiment. C'est un défi. Là, moi, faire de la peinture, c'est déjà. C'est pas un acte nouveau. Donc, faire toujours la même chose, ça serait comme une espèce de redondance. Là, qu'on attribuerait facilement au fait de faire la peinture. Donc, c'est un défi que je me lance. Puis aussi, il y a tout le côté installatif aussi de la peinture. C'est que en faisant l'installation, c'est-à-dire en faisant la série, ça me propose une forme de soit au niveau du cadre, au niveau de l'espace. Je travaille, en tout cas,
Mais donc, une fois que l'exposition a eu lieu, on repart une nouvelle série.
Oui.
Donc, c'est pas une exposition qui va tourner.
Ben, par exemple, la dernière expo que j'avais faite chez Regard à Lévis.
C'était beau, c'était magnifique. Ça.
Bon, c'est ça. Mais cette expo-là, je vais la refaire en octobre, mais au centre d'exposition d'Amos. Mm-hmm. Mais dans un contexte où la salle est beaucoup plus grande. Mm-hmm. Donc, là, je travaille ces temps-ci des pièces pour finir aussi, parce que j'ai pas assez de pièces pour faire cette salle-là. Donc,
ça veut dire aussi que l'exposition, c'est une œuvre en soi.
Hein? Moi, j'adopte toujours l'espace, là, c'est la priorité. Après ça, on assemble les pièces.
Dans l'espace qui est là.
Oui, exactement, c'est ça.
Est-ce que tu as déjà une idée de la dimension que la série va avoir, puis à quel moment ça va être exposé? Parce que pour l'instant, on a cette pièce-là. C'est comme surprise. C'est
ça.
Mais...
ça va être des immenses, en tout cas, il y a une série d'immenses aquarelles. Peut-être dans les 4 pieds par 8 pieds. Là.
Des aquarelles, mais...
Oui, parce que c'est pas ma référence à Turner, évidemment. Mm-hmm. J'ai déjà toujours quelques séries d'aquarelles dans chaque exposition, dessins et aquarelles. Oui. Aquarelles, je veux dire, il y a aussi d'autres médiums, mais c'est quand même le traitement de l'aquarelle. Il va y avoir des immenses pièces aussi sur face de bois, puis il va y avoir plusieurs petites pièces aussi.
Et toujours autour de la thématique des baleines?
Oui, toujours. J'utilise tous les artefacts là, qui ont rapport à la pêche. Ça va dans qu'elle soit industrielle ou sportive. Mm-hmm. J'ai des séries de mouches à pêcher.
Oui.
J'exploite, là. J'exploite pas les fonds marins.
Ils se pêchent de la mouche à la baleine. La pêche de la baleine à la mouche.
C'est des bonnes mouches. Quelque chose. C'est des bonnes mouches.
Puis pour alimenter ta réflexion sur ça, parce que c'est des sujets assez pré-pointus, là, est-ce que ça veut dire que tu t'embarques dans des lectures scientifiques, l'information journalistique?
Ça, forcément, à un moment donné, on en vient toujours à ça, mais moi, ce sujet-là est venu avec un simple reportage où on voyait la pêche au requin. Mmh. Si on connaît personne qui est vraiment ami avec un requin, mais quand on voyait le traitement qui était dédié au requin, c'était épouvantable. On coupait les queues, on coupait
les nageoires,
les nageoires, puis on remettait à l'eau vivant. Là. Ça, c'est épouvantable. Mm. Puis après ça, bon, de fil en aiguille, on fait de la recherche, puis on se rend compte que le poisson, c'est coté en bourse. Hein, puis, donc, c'est pas. Puis les techniques de pêche sont utilisées aussi. Là. Mm. C'est un peu épeurant. Donc,
ça veut dire que toi, pour toi, la peinture, c'est un geste poétique, mais politique aussi.
Oui, puis en même temps, ça rejoint toujours les grands courants de l'histoire de l'art. Il y a toujours, là, on se trouve dans la marine, mais bon, il y a une thématique qui s'ajoute. Il y a la façon de travailler, la façon de peindre, d'appliquer ses couleurs. Fait que ça, c'est des points de départ, puis ça permet de peut-être trouver des pistes.
Mmh. Il y a des artistes qui engagés comme ça, mais qui sont là, on dirait, comme pour dénoncer. Il y en a qui sont juste pour montrer. Nous, on a l'occasion ici à l'émission de rencontrer des centaines, comme disait Jean-Pierre, des centaines d'artistes. Et il y a une chose qui arrive souvent, c'est l'artiste qui, en fait, qui dénonce, soit qui montre, mais qui voit pour les autres. As-tu le sentiment que toi, que tu regardes plus que la majorité des gens?
Mais je pense que c'est ça le travail de l'artiste, hein, c'est de regarder, c'est de voir, puis ensuite. Je prétends pas que quand on va arriver devant un tableau, qu'on va avoir l'impression qu'on est devant le phénomène que je décris. Mm-hmm. Mais sauf qu'il va être mentionné quelque part, soit par le biais du communiqué, par le biais du texte, ou peu importe. Ou dans l'ensemble du travail, si on marque les traces, tout ça, c'est un point de départ. Mais je pense que le travail de l'artiste, c'est de regarder.
Mm. Puis de nous le faire voir à nous.
Ah, ouais. Oui.
Tu travailles, tu parlais d'aquarelle. D'habitude, c'est à l'huile ou à l'acrylique?
Ah, mais c'est ça. Je parlais, il y a une série dans cette série-là qui va être de l'aquarelle. Mm. C'est un peu mon rapport avec Turner dans l'histoire. Mm. Donc, c'est des vraiment grands formats d'aquarelle. C'est pas la petite aquarelle qui est...
Ouais, avec les petits pinceaux numéro 00.
Il y a aussi, toutes les autres pièces qui vont être en médium mix. Mm. Donc, puis il va y avoir une projection vidéo aussi avec ça.
Ah, ouais, formidable. Mm.
Mais actuellement, ce qu'on a ici... Dans le cadre du Radioton, c'est l'œuvre numéro 1 de cette série-là.
C'est très beau.
Les dents de la mer numéro 1.
C'est les dents de la mer numéro 1.
Numéro 1.
La mise de départ était de 300...
Était 250
$250, et on est rendu à 350 actuellement.
Et mon Dieu, ça...
Donc, ça monte. C'est une œuvre qui vaut 500 $. D'après moi, on devrait être bon pour arriver au bout. Parce qu'on est. Je connais quelqu'un très personnellement qui s'intéresse.
Dont on taira le nom. C'est cousu de câble.
Ah ben, on va lui souhaiter bonne chance.
Oui. Ben, merci, Carlos Sainte-Marie, d'être passé par chez nous.
C'est moi qui vous remercie. Puis, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour amasser les fonds parce que c'est nécessaire.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. C'est le 640-2575-640-CKRL. On a aussi actuellement des lots dont vous pouvez vous. Prémunir, que vous pouvez vous procurer maintenant. Par exemple, pour 10 $, le roman d'Hélène Arbeck, La chambre 503. Ça, c'est un roman qui parle d'une femme qui accompagne son père sur son lit de mort. C'est toute une série de petites pensées. C'est un peu comme son journal étalé sur toute la période où son père était sur le point de mourir. Donc, 10 $. Il y a aussi un autre livre, une bande dessinée cette fois-ci que tu connais, toi, que tu connais Philippe Girard, Anne-Marie.
Oui.
Alors, une bande de Philippe Girard qui s'intitule Béatrice, l'affaire et ketchup. Alors, ça annonce probablement un peu quelque chose de sanguignolant.
Super intéressant.
C'est 10 $. Un certificat cadeau de 25 $ de la bouquinerie Toxiède et en prime une bouteille de vin Barefoot. Tout ça pour 30 $ donc un certificat cadeau de la bouquinerie Toxiède et en prime une bouteille de vin de Barefoot. On a aussi le livre de Roch Carrier sur... On est vraiment dans le temps du hockey. Le Rocket de Roch Carrier, un livre sur Maurice Richard, évidemment, 12 $. Et enfin, un livre de Stephen Carter, non pas Harper, La Dame en noir.
Il écrit pas. Peut-être qu'il ne sait pas lire non plus.
Il est beaucoup trop présent déjà dans le paysage.
D'ailleurs, il reçoit un livre par semaine de... Oui. Comment il s'appelle, donc?
Yann Martel.
Yann Martel. Mm. Et lui aussi, il y a une dame en noir ces temps-ci, la ministre Gergis, je ne sais pas trop quoi, là, qui a démissionné.
Ça va bien.
Alors, 12 $ pour l'autre roman, celui de Stephen Carter, La Dame en noir, 12 $. On a avec nous maintenant Julie Gagné, bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour, salut. Julie.
Hey, Julie, peux-tu nous parler, toi, tu l'as vu, l'exposition?
Je vous fais un topo là sur l'exposition en général.
Peut-être.
On en discute tous ensemble dans la joie et l'allégresse.
On peut faire un topo en général ou on peut en discuter tous ensemble.
Ben moi, j'aimerais bien qu'on en discute tous ensemble parce que ça fait quelques jours que je donne mes impressions à moi, mais je serais curieuse d'avoir les vôtres aussi. Hein. C'est toujours une richesse de conjuguer toutes nos pensées ensemble.
Alors, on fait le tour.
Allons-y.
Parlons de l'œuvre de Carole Baillargeon. Carole Baillargeon, c'est une œuvre qui s'inscrit tout à fait dans sa démarche d'art un peu textile, quoi qu'on n'est pas dans le textile ici. Là, c'est une œuvre qui est sur...
C'est du fil.
C'est du fil, c'est sur papier, c'est une robe. C'est le genre d'œuvre qu'elle a présenté l'année passée, l'hiver dernier, à la au Trécarré, à la galerie du Trécarré à Charlebourg. Oui. Donc, une œuvre qui est tout à fait dans sa démarche des quatre saisons où elle utilise notamment le vêtement.
Ben, en fait, moi, je trouve qu'il y a vraiment un aspect vaporeux et léger aussi qui ressort de cette œuvre-là. Une féminité, je ne sais pas si
c'est très délicat. Hein,
c'est très délicat. Ouais. L'utilisation du fil à coudre aussi qui rappelle, moi, ma mère est couturière, donc c'est sûr que c'est nécessairement lié, mais je trouve que vraiment ça a quelque chose justement de léger, aérien et féminin qui ressort de son travail.
Oui, puis en même temps, il y a le rapport entre le fil qui est vraiment fin, puis vraiment bien dosé, puis l'espèce de texture particulière du papier fait main qui est vraiment beaucoup plus rugueux, donc il y a un lien aussi à faire avec
effectivement,
ça, c'est assez intéressant.
Avec l'artisanat aussi, la jonction entre l'art contemporain puis l'artisanat. Carole Baillargeon, qui est directrice de la Maison des métiers d'art, est en plein dedans aussi au quotidien. Mm-hmm. Et ça, j'aime ça justement parce que plus ça va, plus les métiers d'art se lient de manière plus serrée avec l'art contemporain.
Oui, d'ailleurs, on avait vendredi une table ronde autour, justement, de l'évolution des métiers d'art, qui ont laissé l'aspect pratique, l'aspect quotidien, et pour se rapprocher davantage de l'art visuel en général.
Mais d'une création conceptuelle.
Oui, plus conceptuelle. Il y a aussi une œuvre d'une artiste qui s'est proposée, qui n'a pas été sélectionnée par nos commissaires. Il s'agit de Rachel Boisvert. C'est une œuvre, c'est de la peinture, c'est trois grosses fleurs. Le titre, j'oublie le titre.
Je l'ai à quelque part ici, Vivre à trois. En fait, c'est des techniques mixtes avec de l'acrylique et du mortier de structure.
Paul Brunet, maintenant, on peut parler de Paul Brunet qui était avec nous tout à l'heure. Paul a une œuvre très ludique qui s'intitule Alice, avec plein de références à toutes sortes d'éléments,
populaires de l'enfance. En fait, je pense que ça s'adresse à des gens comme Anne-Marie et moi, à peu près de notre âge, avec Alice au Pays des Merveilles, l'espèce de nuage de Mario Bros, là, avec la créature malfaisante qui lance des petites bombes. Un mélange de référents, en fait.
Et la simple citation de ces deux œuvres-là, de Carole Baillargeon et de Paul Brunet, en fait, me fait prendre conscience à quel point je trouvais que dans cette exposition-là, il y avait un bel équilibre entre des œuvres qui sont beaucoup plus décoratives et des œuvres qui sont beaucoup plus narratives. Puis je crois que c'était un bon choix des commissaires d'essayer de faire venir un peu des artistes qui ont différentes approches pour permettre vraiment d'avoir tout un choix pour le public. Là. C'est vraiment particulier. Il y a des trucs très décoratifs, puis d'autres œuvres qui sont beaucoup plus narratives, qui ont beaucoup plus de références historiques aussi.
Et on a quelqu'un qui est Guillaume Adjutant-Provost, qui vient tout juste d'arriver.
Oui.
On l'attendait.
Absolument.
Guillaume, bonjour.
Allô. Allô, Jean-Pierre.
Guillaume, tu nous proposes... D'ailleurs, Guillaume a aussi une œuvre dans cette exposition-là, et qui est une toute petite œuvre, un dessin.
Oui, c'est ça.
Et il y a déjà une mise en passant sur ton œuvre.
Excellent. C'est bon, ça. J'aime ça.
Alors, qu'est-ce que tu nous présentes?
C'est une œuvre qui est assez actuelle, il faut dire, parce qu'elle date de janvier. Puis... En fait, c'est une époque où est-ce que... Pardon, je prends mon souffle, je viens d'arriver
à
la course.
Il y a une course.
Puis, en fait, c'est une époque où est-ce que je cherchais des événements sensibles de l'histoire politique ou autre. Puis dans ce cas-là, c'est un événement qui est arrivé au Vietnam en 63. que vous connaissez sûrement, donc, qui est le moine de, vietnamien qui s'est immolé sur la place publique à Saigon, qui était donc Thich Quang Doc, qui est entre autres le titre également de cette œuvre. Puis...
Ah, ok, donc le titre, c'est le nom du moine qui s'est immolé sur la place publique.
C'est exact. C'est exact. Puis,
Pourquoi
cette forme-là? Pourquoi tout ça, finalement? Oui. Donc, c'est parce que aussi, c'est quand ils ont fait une deuxième crémation, ils ont brûlé le cœur une deuxième fois, puis le cœur est resté intact. Puis c'est à partir des photos documentaires de cette œuvre-là qui est devenue, pas cette œuvre-là, mais cet objet-là qui est devenu une sorte de relique pour les moines, pardon, pas tibétains, mais vietnamiens. J'ai réutilisé la forme, puis je l'ai intégré dans une espèce de grille comme ça qui est en relief. Donc, c'est ça.
Donc, c'est comme un artefact, quelque part, de ce moine-là.
Absolument.
Qui a réussi à survivre malgré la crémation.
Oui, puis...
Son cœur a résisté à la crémation.
C'est deux fois. Donc, c'est ça qu'ils ont perçu comme ça, un signe de, ils disaient, la compassion qui est resté. Puis, c'est également un objet qui a transité, donc, à la fois avec les moines pour les mouvements de protestation, mais également, par la suite, le gouvernement s'en est mêlé. Puis,
c'est devenu un
symbole.
Le cœur
est disparu, finalement, dans les années 70. On a perdu la trace de cet objet-là.
Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce moine-là? Parce que t'es quand même...
Ouais.
C'est quand même à 63, tu devais pas être très vieux.
Oui, non, à 63, je devais pas être très vieux.
Tu devais être comme une idée quelque part.
Même pas à
l'état. C'était un projet, oui.
Je pense que je suis allé fouiller dans cet événement-là ou dans d'autres événements également. Donc, on pourrait parler des événements de mai 68 en France ou autre chose. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de romantique dans la manifestation ou dans les mouvements de protestation, ces choses-là. Puis, je cherchais également des événements qui frôlaient toujours une sorte de mysticisme ou de culte. Puis, cet événement-là convenait parfaitement parce que, justement, il y avait aussi cette survie-là du cœur. Alors que, fait divers, généralement, quand il y a une crémation, les choses qui sont les plus longues à brûler, chez la femme, c'est les hanches. Puis, chez l'homme, c'est les épaules. Et le cœur brûle normalement.
Eh ben.
Curieux.
c'est assez important pour toi, j'ai l'impression, en fait, cette profondeur historique-là, j'ai le sentiment que tu la cherches pas mal, en général, dans ton œuvre, puis que ça, c'en est un bon exemple. C'est vraiment... Ouais. Cette recherche-là de référence historique, c'est toujours quelque chose qui habite ton processus de création, ou...
Parce qu'en fait, finalement, c'est sûr que l'œuvre qui en résulte, ça reste une sorte de capsule, ou c'est une synthèse de ce que moi, j'ai découvert, ou... Parce que ça reste toujours assez amateur. Je suis pas historien, je suis pas anthropologue non plus. Puis, j'y vais avec les outils de recherche qui sont disponibles par le web, par les livres, tout ça. Puis ensuite, j'essaie de combler ce vide-là qui reste dans l'œuvre. Parce que c'est sûr que c'est pas une œuvre documentaire non plus. Ça reste toujours une sorte, comme je dis, une synthèse. Donc, soit par le discours, soit par la publication également, j'essaie de concilier ça, cette brèche-là qui est ouverte. Là.
Mais c'est un peu candide, autrement dit, mais c'est quand même fondé sur une inquiétude de ta part, un désir.
Absolument.
C'est quelque chose de personnel, mais autrement dit, l'artiste n'est pas obligé de devenir un homme de science. C'est pas ton devoir.
Non, c'est pas mon devoir, mais comme on pourrait dire, c'est sûr que si on regarde le monde seulement avec un œil scientifique ou d'un point de vue psychologique ou peu importe, je crois que chaque discipline a intérêt à être un peu plus interdisciplinaire parce qu'à ce point-là, on met en évidence peut-être ce qui aurait été... Laisser pour compte, finalement. Là, où...
C'est la partie qu'on ne peut pas calculer dans la science ou dans l'histoire.
Absolument. C'est une manière de parallèle aussi, là, peut-être.
Mais on peut calculer une chose, par contre, c'est que cette œuvre-là, elle est en vente actuellement à l'encan. Et il y a déjà 200$ qui a été mis. Donc, mise de départ est déjà faite. Et vous pouvez aller sur le site de CKRL ou le site de Punctum ou encore aller à l'établi au 265 Est Saint-Vallier.
Exact.
Voir cette œuvre de Guillaume, tout comme les 11 autres œuvres qui sont disponibles à l'encan de CKRL. Ben, merci, Guillaume, d'être passé chez nous.
Merci, Jean-Pierre.
Alors, on va poursuivre, nous autres, notre petit tour. On vient de parler, donc, de l'œuvre de Guillaume Adjutard-Provost. Continuons donc avec celle de Paul de Guillaume, l'autre Guillaume Clermont.
Oui, Guillaume Clermont, ben, je me lance.
Vas-y.
Qui nous présente, en
c'est
fait...
C'est toi l'historienne.
Une toi, ben, je suis pas toute seule, mais j'ai aussi une historienne d'art,
nous,
attention.
Nous, on n'est pas
qui nous présente une œuvre avec des crânes, il me semble, hein, des crânes couleurs, dans des couleurs assez vives, mais sans être trop éclatantes. Des crânes, en fait, qui, pour moi, sont plus évoqués
que réellement, vraiment, on voit un crâne, tout ça. Donc, des crânes assemblés comme ça dans le bas de la composition, dans des couleurs vives, mais sur un fond de toile écrue, comme couleur lin ou couleur coton, là, qui n'aurait pas été traité. Et moi, ça, je trouve ça vraiment beau, des crânes. Je crois qu'ils sont faits au pochoir aussi. Donc, ça accentue la bidimensionnalité de cette toile-là. On a presque l'impression d'une gravure. On a presque l'impression de voir une affiche ou un produit du design. Donc, la jonction entre ces trois disciplines-là, moi, je trouve ça extrêmement intéressant.
C'est vraiment un travail super intéressant sur la surface picturale en tant que telle. C'est vraiment, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment des œuvres qui sont particulièrement décoratives et ça, c'en est une qui m'a vraiment frappée à ce niveau-là.
Parlons maintenant, on a parlé de celle d'Isabelle Demers tout à l'heure avec Isabelle, celle de Caroline Jean, qui est plus dans l'ordre de l'urbanité, un personnage qui a l'air à sortir d'un milieu urbain.
Oui, avec un arrière-fond d'hôtel. Puis je crois que le titre, c'est « Un star et demi », quelque chose comme ça.
Oui, c'est exactement un star et demi.
C'est une impression sur toile. Ouais, j'ai trouvé ça assez urbain, en fait. Mm-hmm. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup au travail de Caroline Jean en général, qui est une artiste relativement bien connue déjà. Un beau parallèle entre ce visage-là qui est assez esquissé, puis un décor, un panorama urbain très, très, très précis en arrière. Oui, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Il y a un peu d'usage de la couleur, mais à peine, puis c'est vraiment uniquement pour souligner des affiches de publicité. Donc, c'est vraiment assez complexe comme œuvre, puis ça vaut la peine de se déplacer pour aller la voir, parce que c'est très difficile à
un aspect collage aussi, hein, puis justement, tu parlais de contraste entre la figure qui est esquissée, donc la ligne qui est un mouvement très, très libre, et les lignes droites et très, très nettes, horizontales, verticales du décor. C'est vraiment très beau.
Il nous reste une minute pour parler de Jean-Philippe Harvey, sur lequel il y a déjà une première mise qui a été faite aussi.
Ce sont des fantômes.
Oui, en fait, oh!
Oui.
Majuscule,
minuscule,
majuscule, minuscule. On sent un peu ridicule à dire le nom à voix haute.
Christian me disait qu'il est allé à New York dernièrement et c'est le genre de peinture qu'il a vu à New York, ce que Jean-Philippe Harvey fait.
Oh. Ah ouais?
Oui, oui.
Ben en fait, c'est comme des visages de fantômes, moi, de ce que j'en ai vu, là, qui apparaissent sur un fond noir. Là, c'est vraiment un camailleux de noir, si l'expression me le permet.
Ben écoutez, on est rendu à la fin de l'émission. C'est le temps de miser. 640-25-75, c'est le Radioton. Il reste quelques heures pour atteindre un objectif de 40 000 $. C'est extrêmement important qu'on puisse atteindre cet objectif-là pour que CKRL puisse demeurer la radio culturelle qu'on connaît et qu'on souhaite qu'elle continue encore. Alors, merci, Julie.
Merci à vous. Merci
Anne-Marie. Merci Richard.
Merci
à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de miser 640-25-75. Et on cède la parole à nos gens qui font des publicités par la suite, les encans, et par la suite, une autre émission. Le Radioton se poursuit jusqu'à 8 heures ce soir.